la séance aujourd'hui était conçue d'une manière qui est une manière relativement ciblée. Roger va vous en parler parce que c'était lui qui a en quelque sorte conçu la thématique d'une relation parti-syndicat du point de vue du Parti communiste qui s'inscrit dans une conception d'une constellation, d'une galaxie. Notre ami Ciro, lui, emploie le terme d'écosystème, qui est tout à fait valable, c'est-à-dire les interactions, on en parlera, il va en parler. Je voulais juste dire que cette séance venait en conclusion d'une série de séances qui ont eu lieu au long de l'année, organisées avec Jean Vigreux et Roger Martelly, et qui balise une série de questions concernant l'histoire du PCF sur le siècle, avec dans une approche qui peut varier, qui a été à la fois événementielle, mais aussi thématique, en termes d'histoire sociale, comme en termes d'histoire plus proprement politique. Et là, on est au carrefour des deux, aujourd'hui, et donc je passe la parole à Roger.
Et on continuera l'an prochain.
Voilà, mais
t'as dû voir. On continuera la série. Non, je vais juste vous laisser rapidement la parole, c'est juste effectivement une présentation de ce dont on avait envie de discuter, voilà, en se disant... Le rapport du Parti communiste français et du mouvement syndical, évidemment, il a été très souvent abordé par le prisme de la subordination. Bon, inutile de dire qu'il ne s'agit pas de jurer nos grands dieux que la subordination, non, ça n'a jamais existé. La subordination désigne quelque chose. La direction du parti a toujours suivi attentivement l'activité syndicale. Il y a de nombreuses réunions, jusque dans les années 70, des réunions de direction, du bureau politique, du secrétariat, consacrées à la question syndicale, souvent à l'activité des fédérations, quand ce n'était pas la désignation des cadres. Donc l'idée qui est de la subordination, c'est pas cela qu'il s'agit de remettre en question. Par contre, ce que nous avons pensé, c'est qu'il fallait évidemment élargir la réflexion déjà au départ en se disant que la question du rapport du communisme au mouvement syndical s'inscrit dans un cadre qui n'est pas d'abord un cadre national, mais qui est un cadre beaucoup plus large, au moins européen, et qui déborde d'ailleurs la seule question du communisme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui renvoie à des grands modèles d'articulation du politique et du social qui existent depuis le 19e siècle. En gros, on sait, à mon avis, qu'il y a trois grands modèles d'articulation du politique et du syndical. Le modèle travailliste, c'est-à-dire c'est le syndicat, j'allais dire, qui structure l'articulation. Le rapport au politique se construit à partir du syndicat, le parti n'étant au fond que la branche politique du syndicalisme, c'est le modèle Lutuc. Donc, il y a le modèle social-démocrate, qui est aussi le modèle communiste, qui est un modèle, au contraire, qui repose plutôt sur la prééminence du parti, mais qui articule l'activité du parti, du syndicat, et d'ailleurs d'une série d'associations, j'y reviendrai. Et le modèle du syndicalisme révolutionnaire, c'est le syndicat qui est en lui-même le lieu d'articulation du social, du politique, le syndicat et l'organisation ouvrière, tout terrain, etc. Donc, le rapport du Parti communiste au monde syndical s'inscrit dans ce cadre général. Encore une fois, c'est, on va dire, en réalité, la continuation, par certains côtés, du modèle social-démocrate. Avec cette idée que, dans le cas français, le modèle social-démocrate pur ne fonctionne pas comme il peut fonctionner, par exemple, en Allemagne. Il ne faut pas oublier que, par exemple, à la fin du 19e siècle, ça n'est pas le modèle guédiste qui l'a emporté dans le Parti socialiste, de subordination, alors pour le coup total, du parti ou du syndicat, c'est la séparation entre les deux. Et j'allais dire, pour moi, l'un des significatifs, c'est la conception de Jaurès, qui est une conception souvent méconnue. C'est-à-dire Jaurès, qui est l'homme qui soutient Mitterrand et qui, en 1908, au congrès de Toulouse de la SFIO, explique il ne faut surtout pas abandonner le syndicalisme. On a besoin du syndicalisme révolutionnaire de la CGT, parce que sinon, nous versons dans le crétinisme parlementaire et nous avons besoin de la pression syndicale pour que le monde ouvrier exerce j'allais dire, sa fonction à la fois sur le terrain politique et social. Et je dirais que d'une certaine manière, j'ai l'impression que, de manière complexe, variable selon les périodes, le communisme, je dirais au départ thorésien au fond, hein, pour thorésien, frachonien, enfin, je ne sais pas comment dire ça, hérite un peu de cette conception, qui est d'une réelle articulation avec une primauté du parti, mais en faisant bien attention de ne pas, malgré tout, confondre les deux rejets. Et au fond, ce que on proposerait plus volontiers, c'est de se dire, finalement, plutôt que de parler de simple subordination, peut-être vaut-il mieux se dire que le communisme politique, au fond, en France, ne fonctionne pas simplement sur le registre du parti, mais qu'au fond, le communisme a réussi à constituer en France ce que la social-démocratie a réussi à constituer dans d'autres pays, en Allemagne ou dans les pays scandinaves, c'est-à-dire la constitution d'une sorte de vaste galaxie dans laquelle il y a du partisan, il y a du syndical, il y a de l'associatif, il y a du symbolique, il y a du culturel. Une galaxie qui fonctionne, et dans cette galaxie, je pense qu'on peut intégrer cette idée que, justement, même s'il y a globalement subordination, la subordination ne construit pas simplement une relation, je vais dire, univoque du parti vers le syndicat. Il y a des interactions qui se constituent, et cette galaxie est effectivement le lieu d'existence de quelque chose qu'on peut appeler un écosystème, comme le dit souvent Michel, ici présent, hein, qui aime bien cette notion d'écosystème, un écosystème dans lequel il y a des interactions qui existent réellement entre les composantes différentes de la galaxie, mais notamment, évidemment, la composante syndicale et politique. Et en gros, l'hypothèse qu'on essaie éventuellement de tester, mais c'est ça qui fait le débat, c'est que pour penser cette articulation du syndical et du politique, on a intérêt à penser donc en termes de galaxie, en se référant à des modèles extérieurs. Encore une fois, le communisme réussit ce que le Parti socialiste n'a jamais réussi à faire en France. Par exemple, les tentatives après-guerre de travaillisme autour de Meyer ou d'autres ne réussissent jamais. Le lien de FO et du Parti socialiste est extrêmement complexe, même si, évidemment, il existe, mais très complet. Et la tentative de 74 des années 70 d'articulation avec la CFDT aussi fait long feu. Et donc, d'une certaine manière, le PC réussit en France ce qui ailleurs est réussi par le socialisme et qu'il ne réussit pas en France et que, en tout cas, je tends à penser, mais je pense que je ne suis pas le seul à penser, que l'une des raisons de l'implantation du communisme en terre française repose sur l'existence de cette galaxie et pas simplement sur, j'allais dire, l'activité strictement partisane. Enfin, en tout cas, j'allais presque dire, c'est des hypothèses un peu abruptes que j'avance, hein, mais on aurait aimé, j'allais dire, au fond, discuter un peu de questions comme celle-là, et évidemment d'autres, mais c'est pour ça, bon, malheureusement, donc Stéphane nous aurait apporté évidemment des réflexions extrêmement intéressantes. Bon, il n'est pas là, mais nous faisons confiance à nos deux protagonistes présents et aux spécialistes pratiques qui sont autour de la table pour nous aider à avancer dans cette réflexion. Enfin, voilà donc un peu au départ, j'allais dire de manière brutale, la façon dont on se posait un peu la question linéaire. Voilà.
Peut-être. Est-ce que tu me donnes la parole pour ajouter un mot à propos de la proposition de Stéphane sur
chronologie.
L'idée d'une périodisation. Voilà, comment, à l'intérieur de cette réflexion d'ordre théorique et problématique que vient de présenter Roger, on peut penser une périodisation. Pour Stéphane, il y a une périodisation qui trace à grands traits de la manière suivante. Une première période qui irait des origines du Parti communiste au Front populaire et à la première réunification, d'une part, qui serait une construction d'une interaction d'un type particulier avec beaucoup de visibilité sur la subordination, bien sûr, mais aussi justement des équilibres qui se cherchent et qui se retrouvent au moment du Front populaire. Et à partir de ce moment-là, un modèle sinon stabilisé, puisqu'il y a la période, si on entre dans le détail historique, événementiel, la période de la guerre, qui est une période qui n'est quand même pas anodine du point de vue de l'histoire du syndicat et des rapports parti-syndicat, mais quand même, globalement, un modèle qui fonctionne, selon lui, jusqu'au début des années 70, du point de vue du rapport parti communiste-syndicat. Il situe, à partir de ce moment-là, au milieu des années 70, un ébranlement de ce système qui mène jusqu'à la fin des années 80, début 90. On voit que la périodisation se raccourcit en termes de... on n'est pas dans des intervalles réguliers, mais enfin... Et la dernière période, celle des années 90 à nos jours, la décomposition et la déstructuration de ce système.
D'abord la crise et puis après le crépuscule.
Oui, l'emploi
de crise de l'écosystème.
Il y a les métaphores, il y a les interprétations, les métaphores, les manières de dire. Mais enfin, simplement, c'est à propos de l'idée de la périodisation que je voulais vous suggérer cela. Je ne suis pas sûr qu'il faille forcément, notamment à partir de vos compétences et de votre réflexion, fonctionner dans un ordre chronologique nécessaire. Mais de partir à partir de ce que votre expérience réciproque. De réflexion sur ces différents moments, à l'épreuve de la question posée par Roger. Jean,
résumer notre réflexion. Ça, sauf peut-être qu'on pourrait rajouter, mais effectivement, sur la logique ouvrière, mais qu'on pourrait penser le PC et tous les syndicats. L'ensemble du syndicalisme, c'est-à-dire les enjeux autour de la paysannerie, par exemple.
C'est
des choses quand même. Oui, le MODEF, mais avant la CGPT, la CGA, puis le MODEF, en passant par la FNSEA, bien sûr. De l'autre côté, aussi sur le syndicalisme des salariés, autre que de l'éducation nationale, entre autres, avec le problème de la guerre froide qui fait que la FEN, enfin la CGT, pardon, se retrouve, le SNI, excusez-moi, se retrouve à la FEN et pas à la CGT au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a aussi tout un. Et la prise du SNEST qu'on évoquait tout à l'heure avec Roger dans les années 66, comme dit du SNEST. Donc il y aurait peut-être aussi, dans ce schéma, ne pas trop interpréter par la vision de la classe ouvrière, même s'il y a ces enjeux particuliers et qui participent de cette histoire et de cette culture, et de cela, mais aussi des autres formes du syndicalisme qui existent dans la société française. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose à regarder. Moi, c'était ça qu'on pouvait rajouter dans la logique de questionnement.
Quand même un préalable, c'est que je sais que je dois intervenir aujourd'hui, depuis lundi. Donc, il était entendu que Stéphane interviendrait et qu'ensuite, il y aurait une sorte de table ronde. Autrement dit, voilà. Non, mais donc, je n'ai pas eu le temps. Donc, ça faisait... Le contrat était celui-ci. Hein, donc, voilà. Donc, coup, même si vous avez bien... résumer ce que voulait dire Stéphane. Il y a une vaste question à aborder. Moi, je vais l'aborder tel que je peux le faire, c'est-à-dire en inversant un peu la question, c'est-à-dire qu'est-ce que le syndicalisme peut trouver dans le communisme, ou pas. Et ça me paraît important parce que les cultures syndicales en France, déjà, sont antérieures au communisme. Et que, pour une large part... elles se sont, dans le cadre, quand on regarde les cultures syndicales, celles d'organisation, proprement dit, ou plus largement, les cultures syndicales, on constate qu'il y a certes des dominantes, mais il n'y a jamais eu une culture qui l'ait emportée, qui ait écrasé les autres. C'est-à-dire que même si on prend la CGT, dans toute l'histoire de la CGT, il y a eu des sensibilités, il y a eu des cultures qui ont... tant bien que mal coexister en leur sein, mais qui n'ont jamais cessé. Alors, avec plus ou moins d'importance, mais ce qui donne d'ailleurs aussi au syndicalisme, en dehors de sa fonction propre et de son utilité, en tout cas jusqu'à nos jours, c'est ce qui fait que le syndicalisme peut exister, j'enfonce une porte ouverte, mais peut exister sans un parti communiste, en tout cas sans un parti communiste fort, et en mesure de peser sur le mouvement social. C'est une première remarque. La deuxième, à propos des modèles de relations. Tu es revenu avant 14 et tu as raison. Même chez les guédistes, le guédisme n'est pas la caricature qu'on en a fait après coup. Même dans le guédisme, si on sort des porte-paroles, des représentants de tendance, les pratiques dans la relation entre partis et syndicats, ça n'est pas parce qu'on laisse aux partis le soin de présenter des candidats et de tenir des mandats électoraux qu'on va laisser le parti intervenir dans le fonctionnement du syndicat. Ce qu'on essaie d'éviter, c'est qu'il y ait une séparation, celle que justifie, que légitime le syndicalisme révolutionnaire, ça, non. Mais pour le reste, en quelque sorte, chacun a son créneau. Il y a un mouvement ouvrier. Apparemment, c'est le parti qui donne le ton, mais ça aussi, c'est une vision un peu biaisée. C'est une vision qui donne le ton dès lors qu'on considère que le moment principal, c'est le moment électoral. Et que tout se joue autour de ça. Et que théoriquement, ensuite, on remet au parti le rôle de réaliser la révolution. Mais comme elle ne vient pas, et comme on s'installe dans les pratiques, le rôle dirigeant du parti, dans la tradition guédiste, n'est pas ce qu'ils en disent, ou ce qu'on en a dit après, en rajoutant une couche. Tu dis... Je réagis à ça, hein, donc ça va être peut-être un peu décousu, je m'en excuse, mais je vais essayer quand même d'avancer chronologiquement. Jaurès, c'est vrai, mais ce n'est pas une histoire de boutique. Il ne faut pas oublier le troisième grand nom quand même du socialisme avant 14, qui est Vaillant. Ah oui, non, mais le grand bonhomme du syndicalisme, le grand bonhomme du socialisme dans le syndicalisme, c'est Édouard Vaillant. Et c'est pas pour rien que Domanger, Maurice Domanger, l'a qualifié, bon, c'est un peu facile, mais de grand-père de la CGT. Parce qu'il y a chez Vaillant, beaucoup plus que chez Jaurès, alors ça tient à son expérience, la Commune de Paris, ça, c'est une expérience. Ça tient aussi au fait que Vaillant, il a vécu en Angleterre, il a vécu à l'étranger, il a vu les autres. Il a d'ailleurs, pareil, hein, le grand homme, le grand français de l'international socialiste, c'est Vaillant. Donc, voilà, en plus, il parle l'allemand et tout, et donc il a une vision internationale qui est plus forte. Et puis, il a cette pratique. Et quand même, il n'est pas au tout premier rang, mais quand même dans la Commune de Paris, il est un acteur important. Et en plus, il a une articulation. Alors, je ne fais pas un truc surveillant, hein, rassurez-vous, mais il a une articulation avec Blanqui et avec courant révolutionnaire antérieur au marxisme qui le plonge et qui nourrit sa réflexion. Certes, du marxisme, mais aussi de la pratique révolutionnaire et des réflexions de cela. Et c'est ce qui fait que, dans les écoles socialistes, le vaillantisme est une véritable réflexion et pratique originale. Et d'ailleurs, on les voit parmi les éléments qui vont rompre avec la Fédération nationale des syndicats pour créer la CGT. Côté socialiste, les vaillantistes sont très actifs. Alors, il y a les albanistes après, mais c'est encore autre chose. Et les vaillantistes ont une vraie réflexion sur l'articulation des luttes sociales et des luttes politiques, et sans en subordonner l'une à l'autre. Et ça, c'est l'originalité. Alors, et évidemment, les vaillantistes sont plus capables de parler aux syndicalistes purs, on va les dire comme ça, parce que syndicalistes révolutionnaires, c'est encore quelque chose d'un peu strict, mais ils sont plus audibles par eux, et ils développent et ils ont une influence dans la CGT qui est importante. C'est important de le dire. Il y a un véritable héritage de... Sans doute, Jaurès, après, la met en quelque sorte la théorise sans doute plus que Vaillant, mais Vaillant pose quand même les bases et les principes. Alors voilà, donc pour le moment, on n'a toujours pas de communiste, ça vient, j'y viens. À mon avis, dans la construction, alors je suis bien d'accord avec le début de la périodisation, hein, à partir de 2021, après la création du Parti communiste, le moment important, c'est le moment de la bolchevisation-ouvriérisation. Mais alors justement, c'est ça qui est intéressant, parce que le Parti communiste se construit une identité, sinon tout de suite une pratique, mais en s'imprégnant de syndicalisme. 24-25, c'est quand même, quand on le rappelle, parfois ça surprend, en 24-25, l'International décide de faire rentrer à la direction du Parti communiste 4 dirigeants syndicaux de la CGTU, dont 3 qui ne sont pas membres du Parti communiste. Donc là, il y a une prise de pouvoir, c'est sans doute fort, mais c'est incontestablement à ce moment-là que peut se mettre en œuvre une politique d'implantation ouvrière privilégiée et en même temps d'ouvriérisation d'une direction politique. Mais par rapport à ça, c'est-à-dire que dans le démarrage, c'est la CGTU, qui est loin d'être homogène, j'y reviendrai, hein, mais c'est la CGTU qui donne au Parti communiste les conditions politiques et sociologiques d'émergence véritablement d'un parti communiste distinct de la vieille SFIO. Alors ça ne se fait pas sans mal, ni sans grabuge, et ainsi de suite. Ce n'est pas le lieu de le voir, mais c'est important quand même de le rappeler. Sans doute, cette, en quelque sorte, entrée de la CGTU dans le parti communiste, les rapports de force vont s'inverser, ça c'est clair, hein. La direction unique, les liens étroits, ça va assez vite se mettre en place. Mais là encore, il ne faut pas regarder que ce qui se passe dans les congrès. C'est vrai qu'une partie des syndicalistes révolutionnaires qui avaient aidé à la construction de la CGTU vont être écartés ou vont partir, mais il y a quand même pas mal de bases de résistance. Alors l'enseignement, bon, mais un secteur important, les pauvres et docs, quasiment jusqu'en 1934, c'est oppositionnel. Oppositionnel multiples variantes, hein, y compris les sabianistes, donc ça, c'est un oppositionnel à vaste spectre, mais il n'empêche. La CGTU n'est pas un bloc, dans les congrès, c'est carré tout, mais il n'empêche. Et là, il y a en effet une pratique qui se développe et qui fait à la fois sans doute l'apprentissage d'un syndicalisme communiste, mais qui fait l'apprentissage des luttes sociales du Parti communiste en même temps. Ça se fait là, dans les deux sens. Il y a sans doute une impulsion politique, indéniablement, qui est celle du parti et au-delà de l'international, mais c'est à travers les luttes, alors la plupart perdues, souvent catastrophiques du point de vue tactique, voire du côté point de vue stratégique, mais c'est par la CGTU que le Parti communiste fait l'apprentissage des luttes sociales et qu'il rompt avec l'héritage ses filiaux d'antan. Bon. Alors, en même temps, la vieille CGT, la CGT Jouot, et il faut bien voir aussi, elle, quel rapport elle entretient avec le politique. Parce que, au moment du Front populaire, et plus encore à la Libération, il va y avoir quand même une sacrée captation d'héritage, à l'air de rien. La CGT, elle est clairement réformiste, mais de par son expérience de la guerre où elle découvre l'État, et que c'est quand même, ça peut être efficace, l'État, et qu'il faut mieux y être, et on peut parfois obtenir, en passant par l'État, ce qu'on n'obtient pas par le truc. Donc il y a une véritable découverte. Alors évidemment, Jouot, ce n'est pas un théoricien, mais il n'empêche. De toute façon, ça réfléchit aussi au niveau international. Et la CGT Jouot s'en imprègne bien. Ce n'est pas une courroie de transmission de quelque parti politique que ce soit. Ils sont sans doute réformiste, mais là encore, il y a un panel assez large, et ils réfléchissent, et ils font des propositions. Ils font les propositions, bah, c'est le programme minimum, qui réfléchit sur le plan, qui réfléchit sur les nationalisations industrialisées, qui réfléchit sur de nouvelles formes de pratiques du politique. Et en 34, après le 6 février, celle qui lance le mouvement, c'est la CGT. Et elle le fait, à ce moment-là, au nom du fait qu'elle considère, ça c'est l'héritage de la Première Guerre mondiale, qu'il y a la démocratie, ça donne quand même des points d'appui aux travailleurs et qu'il faut donc la préserver, ça, elle l'avait déjà dit avant, mais elle le met en œuvre. Et puis, elle travaille sur un projet, un programme qui est quand même très ambitieux quand on y regarde bien. Puisque non seulement ils reprennent les questions de la planification, des nationalisations, mais ils regardent comment transformer les institutions pour faire en sorte que le social entre dans le politique. Et il y a là toute une réflexion qui ne va pas du tout retomber. Alors sans doute, on ne la sent pas dans le programme du Rassemblement populaire, où là, la CGT, d'une certaine façon, adopte une attitude un peu minimaliste, hein, pour le programme du Front populaire, c'est pas le programme de la CGT, mais le programme de la CGT, il est néanmoins là. Il a profondément marqué. Alors, il n'y a pas que des gens de la CGT qui ont travaillé dessus. Il y a des socialistes aussi qui sont dans le coup. Mais ces choses-là, on va les retrouver quand va se négocier le programme du Conseil national de la Résistance. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les communistes, au départ, quand ils voient ces réformes de structure et tout, ils ne sont pas très chauds, hein, à la fois parce qu'ils disent bah, ça va effrayer modérés dont on a besoin dans le Conseil national, mais aussi parce qu'ils disent bah, c'est du réformisme, ils nous resservent la soupe enfin, réformiste habituelle, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Et puis finalement, les besoins et les nécessités de l'unité font qu'ils l'acceptent. Et la captation d'héritage, elle a lieu après. Elle a lieu à la libération. Où là, à ce moment-là, finalement, les communistes, tant partie que ceux qui sont à la CGT et qui, maintenant, ont la maîtrise, contrôlent l'essentiel de la CGT, ils vont s'y retrouver très bien. Mais là, alors, qu'est-ce qui a changé ? En réalité, si je provoque, je vais dire, le Parti communiste reprend à son compte une bonne partie de ce qui était le programme de la CGT de 34-35. Et peut-être que ça consolide aussi les communistes à l'intérieur de la CGT, que cette continuité se fasse. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'à la libération, c'est la CGT qui donne le ton au Parti communiste. Simplement, je complexifie un peu les choses. Quand on regarde de près, on se rend compte. Et c'est là peut-être que sur la périodisation, je ne mettrai pas un petit peu la même. Moi, il me semble qu'il se joue avec le CNR et la Libération quelque chose qui bascule et qui fait qu'il y a cette captation d'héritage qui intervient. Alors ça ne change pas, qu'on me comprenne bien. Si on raisonne en termes de qui fixe l'orientation, il est clair que pour les syndicalistes communistes en 47, en 46 ou en 50, c'est le parti. Mais c'est le parti qui, d'une certaine façon, a fait sien une partie du projet qui était celui de la CGT. Après, c'est intéressant, alors on parlera mieux que moi, mais c'est vrai que si on passe les années, quand Ségui évoque sa relation syndicaliste, CGT et Parti communiste, à la fois, quand il est secrétaire général, il va la vivre difficilement, hein, mais en même temps, il dit combien la présence de syndicalistes à la direction de la CGT et aux différents échelons de l'organisation communiste lui paraissait être quelque chose d'indispensable pour le maintien d'une, en quelque sorte, d'une implantation et d'un enracinement communiste dans le monde du salariat, dans la classe ouvrière et même dans le monde populaire. Séguy, de ce point de vue-là, il est tout à fait attentif. Alors, bon, si vous voulez, on reviendra, parce que je ne veux pas parler trop longtemps, sur les moments de crise des années 70-80, où en effet, là, il se passe quelque chose, des deux côtés d'ailleurs, en fait. Je crois qu'à partir du moment où le Parti communiste perd en quelque sorte sa force d'organisation et sa cohérence politique, il ne présente plus beaucoup d'intérêt, je vais le dire comme ça, pour la CGT. Parce qu'il transporte ses débats internes dans la CGT. Et ce qui fait que, quand on regarde la répartition, le fameux équilibre entre communistes et non-communistes, à partir des années 80, ça n'a plus de sens. Puisque c'est avec une partie des communistes s'appuie sur des non-communistes pour maintenir une orientation contre d'autres communistes. C'est-à-dire que le Parti communiste vient importer dans la CGT, ces problèmes, alors que la CGT a elle-même plein d'autres choses à régler. Alors, mais peut-être ça, on le réserve pour un peu plus tard, parce que c'est un moment là qu'on vient d'étudier précisément, donc là, je fais vite. Je crois aussi que Jean avait raison de dire qu'il fallait considérer tous les syndicalismes, y compris le syndicalisme étudiant, là. Mais le cas des enseignants est tout à fait intéressant quand même, parce que de l'avis d'un certain nombre de syndicalistes de la CGT, la politique éducative du Parti communiste, elle était en fait davantage orientée et décidée par Unité et Action que par le Parti communiste lui-même, qui d'une certaine façon déléguait à Unité et Action ses grandes orientations et ses principales lignes. C'est le point de vue de syndicalistes de la CGT. Hein. Mais ça dit bien que, y compris de leur point de vue, par exemple ceux de l'énergie, ceux d'un certain nombre de services publics, il y avait aussi cette conception que la politique du Parti communiste, elle devait aussi tenir compte des fédérations qui comptent et que là, on ne pouvait pas dire et faire n'importe quoi. Bon, l'énergie est sans doute flagrant de ce côté-là, hein, mais bon. Et puis, dernière remarque, et alors oui, deux autres encore. Le modèle travailliste, on pourrait dire dans le cas communiste, ça ne joue pas. Bah, ça ne joue pas, sauf dans les régions minières, qui ne sont quand même pas négligeables, où là, le syndicat a une telle présence territoriale qu'en réalité, les municipalités ouvrières sont des municipalités syndicales. Elles sont communistes parce que le syndicat qui compte, c'est la CGT qui est dirigée par des communistes, mais c'est des municipalités, alors ouvrières au sens où elles sont syndicales. Et là, le fait territorial est un élément très important. Et là, on a un travaillisme, il n'y a pas de problème. Hein. Les choses se décident au syndicat, le parti et la municipalité enregistrent. Bon, enfin, je caricature un peu, mais c'est un peu comme ça. Et la deuxième chose, le problème pour le Parti communiste, c'est la CFDT. La CFTC, c'était un problème, mais c'est surtout la CFDT. Parce que la CFDT, d'une certaine façon, elle reprend un peu du flambeau du pansyndicalisme d'antan. C'est-à-dire qu'elle s'érige en force de proposition, y compris sur le terrain politique, et elle apparaît comme la seule opposante au conglomérat, ou comme on voudra, à la galaxie communiste. Et là, c'est un vrai problème. Et c'est un problème d'autant plus prégnant qu'avec la question de l'autogestion, ça remet en cause même la manière communiste de voir, de poser le problème du pouvoir et de sa conquête. Ça, c'est... Alors je parle de la CFDT des années 70-80, hein, mais ça a été pour elle, ça a été pour, je pense, le communisme syndical, un vrai problème. C'est pas fini, d'ailleurs, semble-t-il, mais bon, je parle de l'époque où il y avait un communisme syndical.
Merci.
enseigne pire que celle de Michel, parce que moi j'étais censé simplement réagir à vos interventions respectives. Donc là, évidemment, moi je ne suis pas spécialiste en plus de la CGT et du Parti communiste. Bon, j'ai évidemment lu un certain nombre de choses sur le sujet, je m'y suis intéressé. Puis je suis un sociologue du politique, donc du coup, évidemment, cette question plus générale, et je commencerai par là, des modes de relation entre organisations syndicales, champ syndical et champ politique, est évidemment une question, je dirais, très importante et cruciale pour qui s'intéresse, en tout cas, à la fabrication de la politique au 19e et au 20e siècle. Peut-être que je vais repartir d'abord de ce que tu veux dire, Roger, puis ensuite Michel, justement, partir peut-être du général, puis après sur des questions plus particulières. Je pense que la démarche d'identifier des modèles me semble assez intéressante à condition d'avoir en tête tous les modèles possibles, c'est-à-dire de ne pas se focaliser sur les trois seuls modèles que tu as identifiés, j'en ajouterai au moins deux autres, et à condition de considérer que ces modèles ne sont pas des modèles nationaux, mais qui sont des idéotypes qui peuvent effectivement, ça a été dit, hein, mais je pense que c'est important d'avoir les choses claires là-dessus, qui peuvent être des idéotypes qui peuvent être prégnants dans certaines régions, on évoquait les mines, il y a un instant que je connais quand même là un petit peu, le modèle travailliste a existé en France, dans certains secteurs, qui peuvent être prégnants à certaines époques, plus à d'autres, et qui peuvent même coexister au sein même d'une même organisation. Moi, il me semble que, justement, au sein de la CGT et dans ses rapports avec le PC, il y a peut-être des secteurs professionnels, de métiers, des lieux, la banlieue rouge, certains fiefs, où les relations peuvent être très différentes. C'est-à-dire que là où le PC n'existe qu'à travers l'implantation syndicale de la CGT, je dirais que le parti, c'est le syndicat, et où probablement il y a une confusion assez forte des responsables, des gens, etc. Puis le parti a tout intérêt à s'appuyer sur le syndicat. Là où, au contraire, on a une forte municipalisation, je pense qu'on a sans doute d'autres type de relations qui se mettent en place, etc. Et donc c'est important d'avoir ça en tête, et du coup, il me semble très utile, de justement pour utiliser ces idéotypes, hein, c'est-à-dire un idéotype, ça sert à identifier les points communs, mais aussi les points de différence, d'avoir en tête qu'il peut exister d'autres manières, et qu'il a existé d'autres manières ailleurs, etc. Moi j'en vois quand même une quatrième à celle que tu as ajoutée en plus de la social-démocrate et communiste, travailliste et syndicaliste révolutionnaire, c'est qu'il y a le cas américain, je dirais, des États-Unis, où là, on a une très forte autonomie syndicale, et puis un rapport, instrumental à la politique, c'est-à-dire on apporte ponctuellement ou plus structurellement son soutien à tel candidat à un poste de gouverneur, parce que beaucoup de la législation qui régit les syndicats se décide au niveau des États et pas simplement au niveau du pays, donc à tel candidat à l'élection présidentielle, généralement c'est des démocrates, mais pas toujours, et pas tous les démocrates, et il y a plusieurs syndicats aux États-Unis, il y a une histoire syndicale compliquée avec les fusions, etc. Mais enfin, on voit bien effectivement que là, on pourrait parfaitement imaginer certaines confédérations ou certaines sections syndicales, certaines fédérations adoptent cette démarche-là, c'est-à-dire une démarche de négociation à égal, avec un candidat, un parti, en disant « voilà mon programme, vous le prenez, vous le prenez pas, si vous le prenez, on vous soutient, dès que vous vous en éloignez, on vous condamne, etc. Enfin, » Et ça, c'est très intéressant parce que la question peut se poser aussi de pourquoi en France un tel modèle ne s'est pas développé. C'est-à-dire, c'est aussi, vous voyez, toujours penser aussi pourquoi ça aurait pu être, pourquoi ça c'est pas différent et pourquoi est-ce que ça aurait pu être autrement à différents moments du temps. Je pense par exemple qu'avec très récemment, avec le développement des élections primaires pour désigner le candidat présidentiel, et compte tenu du fait que beaucoup de lois sociales en France sont des lois et non pas des choses qui se négocient dans les branches, etc. On aurait pu imaginer, effectivement, on pourrait dire, cette relation contractuelle qui s'établit. Ça, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Est-ce que c'est lié, évidemment, à la division syndicale, à la concurrence syndicale ? Dernier modèle, cinquième modèle auquel je pense, qui est quand même très important, et c'est le modèle corporatiste ou néo-corporatiste. C'est le modèle corporatiste typique, c'est pas celui de Vichy et de la charte du travail. Je pense plutôt à ce qui s'est mis en place dans certains pays d'Amérique latine, en Argentine, au Brésil, etc. Avec des avatars particuliers, mais ce sont des choses qui ont demeuré, hein, encore aujourd'hui, en Argentine par exemple, avec certaines fractions du parti péroniste, où vous avez des organisations syndicales qui se sont vues attribuer par l'État des fonctions de monopole. Alors, ça peut être de gestion de caisses de sécurité sociale, de mutuelles, de retraite, de contrôle de l'embauche, de validation de l'entrée à une espèce de gigantesque clochope, quoi, alors qui ne touche pas tous les métiers, mais voilà, qui fait qu'il y a un syndicat unique des enseignants, des transporteurs routiers, etc. etc. Et évidemment, la relation, c'est une relation qui passe quasiment, on pourrait dire, par un parti qui contrôle l'État et avec une institutionnalisation très forte, qui fait que les organisations syndicales, à certains égards, quand on parle du modèle social-démocrate, on peut se demander s'il n'y a pas, dans son évolution, je pense par exemple au cas de la Suède, parce que la grande différence entre la social-démocratie et le communisme, si on laisse de côté les pays du socialisme et du communisme réel, c'est que les partis sociaux-démocrates, peut-être pas trop en France, jusqu'aux années 80, mais avant, ils ont gouverné, quoi, et très tôt. Et donc, du coup, on voit très vite, effectivement, que la relation qui existait en termes de mouvement et d'action politique devient une relation qui passe au sein de l'État et qui voit les syndicats se faire reconnaître des droits et, évidemment, des possibilités de négociation qui passent par, par exemple, l'institutionnalisation de équivalent de notre, mais avec beaucoup plus de pouvoir, de notre Conseil économique et social, hein, c'est le modèle que les néocorporatistes, hein, où la relation a été tellement forte que les syndicats deviennent partie prenante de la cogestion, se voient attribuer au fond une partie de la gestion des affaires économiques et sociales, et ce qui évidemment débouche sur une institutionnalisation de la relation syndicat-parti, groupe parlementaire, gouvernement, très très forte. Mais sur un pied de parfaite, je dirais, division des tâches et des rôles et de quasi-égalité. Donc, on pourrait dire que il y a un modèle corporatiste qui est plutôt apparu dans des pays, autoritaires, rarement dans des situations de très forte démocratisation, et puis une évolution néocorporatiste du système social-démocrate dans un pays qui est entré en tension et en crise et qui pose effectivement aujourd'hui tout un certain nombre de questions. Là aussi, on pourrait se dire, est-ce qu'il n'y a pas des secteurs dans la société française où le syndicat est quasiment en position néocorporatiste ? Alors, si on travaille sur l'agriculture et la FNSEA, là, on a un très bel exemple. Et là, on a... Et on voit que, le soutien que la FNSEA a toujours apporté au parti gaulliste et puis leur soutien démocrate chrétien, elle est très liée, tout simplement, au fait qu'ils se sont vus... on pourrait dire confier la cogestion de l'agriculture en France de la grande période gaulliste, avec évidemment déjà des signes avant-coureurs avant, mais là, qui a amplifié l'affaire. À certains égards, quand le Parti communiste, 45, là je parle sous le contrôle des historiens, se retrouve à la tête des charbonnages, nationaliser les houillères et confier effectivement aux syndicats... un rôle très important, on pourrait dire, dans la cogestion du secteur. Bon, on pourrait se dire peut-être que...
Deux ans.
Ben oui, non mais je veux dire, voilà, évidemment, c'est toute la différence, voilà. Mais je veux dire, il y a quand même des mots... Du coup, ça a des considérations très particulières, quand même, avec le... Il faudrait voir ce qui se passe à la région.
Donc,
oui, voilà, Wildocker. Alors là. Ouais, voilà, donc voilà, première série de remarques, c'est de se dire, bon, après tout, il n'y a pas forcément un modèle qui domine tout le temps et il y a des tensions permanentes. Deuxième remarque que je ferais, c'est que pour comprendre et périodiser éventuellement la relation, il me semble important de prendre en compte évidemment deux éléments. Le degré d'autonomie atteint par le champ syndical. L'autonomisation du champ syndical. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie ? Là, je m'inspire du concept des modèles de Bourdieu. L'autonomisation d'un champ, c'est quand un secteur de la société devient, pourrait dire, organisé avec des rivalités, des luttes autour d'un enjeu propre ou d'une série d'enjeux propres qui, évidemment, n'entrent pas directement en conflit avec d'autres secteurs. Bon. Et je pense qu'effectivement, ce qui change, ce qui doit être pris en compte, c'est comment... ça commence en 1936, enfin, bon, même si la reconnaissance syndicale en France est du 4, mais enfin, jusqu'en 1936, on pourrait dire, le syndicalisme a une reconnaissance... même s'il y a des conventions collectives qui existent avant, qui sont signées dans certains secteurs professionnels, mais qui n'est pas du tout du même acabit. L'introduction des élections prud'homales, puis des élections à la sécurité sociale, les avancées ensuite après la Deuxième Guerre mondiale, et puis après 68 vont contribuer effectivement à ce que les syndicats vont avoir accès à des ressources auxquelles ils n'avaient pas accès avant. Il va y avoir des élections au comité d'entreprise, il va y avoir des élections de délégués, de représentants, et il va y avoir en plus une confrontation beaucoup plus forte après la guerre avec la concurrence de FO et de la CFTC-CFDT qui devient beaucoup plus importante qu'avant. Et ces éléments-là, évidemment, obligent, quoi qu'ils en aient par ailleurs, même s'ils sont des communistes fervents, personne ne le nie, les dirigeants de la CGT dans certains secteurs, ils les obligent à des stratégies qui ne sont pas forcément effectivement en directe cohérence ou convergence avec celles que souhaiteraient les dirigeants du parti, qui sont dans leur logique de champ politique, champ politique national et international. Le syndicat a besoin de ses membres, il faut que les cotisations rentrent, il faut que la base suive, et c'est pas toujours... je viens de lire une thèse sur le courant lambertiste dans lequel il est rappelé comment l'échec quand même du Parti communiste et de la CGT a mobilisé fortement autour des manifestations anti-Ridgeway dans les années 50. Se traduisent effectivement par des critiques sur le fait qu'on instrumentalise trop la CGT, que attention, on va... Je parle. Spécialiste qui est là, donc je... Donc, et ça, je pense que évidemment, avec le temps, ce sont des éléments absolument déterminants qui... Alors, il faudrait travailler aussi sur les carrières, comment l'émergence de carrières proprement syndicales, là où avant elles étaient rares, des dirigeants, des élus, des délégués, des représentants de comités d'entreprise, etc. Bon, au fond, ce sont des gens qui doivent rendre des comptes, qui sont plus responsables que devant le parti, mais qui sont aussi responsables devant leurs mandants, les salariés de l'entreprise, mais aussi la direction, pour maintenir des crédibilités du syndicat dans les négociations. Il faut tenir... Voilà. Et tout ça ne peut... Et à l'inverse aussi pour l'autonomisation du champ politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, je pense au début des années 60 en particulier... le PC rentre dans une stratégie d'union de la gauche et essaye d'obtenir ça. C'est vrai que ça change un peu quand même la donne sur la manière dont on peut, j'imagine, soutenir des positions qui seraient celles qu'attendraient éventuellement les travailleurs, etc. Enfin, on voit ça aussi très bien en 36, on voit ça en 46, 47, quand il s'agit de finir les grèves. Bon, voilà, il y a des conflits. Alors heureusement, pour le PC, d'une certaine façon, ça ne dure pas. Mais qu'est-ce qui se serait passé si la présence au gouvernement était plus forte? Donc je pense que c'est pas pour dire qu'il y a une tension structurelle entre le champ syndical et le champ politique. Il y a une tension structurelle, mais cette tension, probablement, à mon avis, du fait de la transformation du syndicalisme, la transformation de la place de la négociation, de la professionnalisation du syndicalisme, de la concurrence syndicale, probablement crée des tensions beaucoup plus vives et difficiles à trancher, ce qui peut effectivement déboucher sur des situations de hiatus. Alors ce qui serait intéressant, c'est de regarder effectivement comment ça se règle, comment ça gère ça. C'est-à-dire, est-ce que les acteurs prennent l'habitude de reconnaître une part d'autonomie importante à chacun, et puis on vit avec, ou est-ce que ça se traduit effectivement par des conflits, par des tensions et par une affirmation progressive, une tendance longue, on pourrait dire à l'affirmation de l'autonomisation syndicale, que les dirigeants du parti finissent par accepter par la force des choses, faute de mieux, parce qu'on ne peut pas imposer autrement. Toujours dans ce qui avait été évoqué, justement sur cette question des modèles, alors pourquoi est-ce que finalement, en tendance, le modèle communiste de relations syndicat-parti était très cousin de celui de la social-démocratie en dehors de France, et pourquoi en France il n'y a que le PC qui arrive à ça. Attention à ne pas considérer qu'on a là quelque chose qui serait, on pourrait dire, une espèce de variable lourde, une structure qui ferait que cette tendance serait en quelque sorte très forte. Il y a eu des moments dans l'histoire, ça a été rappelé, avec FO, avec la CFDT, ou avec la CGT avant, où il y a eu des tentatives quand même de rapprochement qui ont échoué. Moi, une des hypothèses que je ferais au moins sur à partir des années 30 quand même, c'est que l'existence même de la relation d'inféodation communiste CGTU puis CGT effectivement est un puissant répulsif pour les autres organisations syndicales. à la CFDT sur la question des liens éventuellement de subordination avec le PS, etc. À un moment, les deux figures repoussoires, c'est l'Église catholique. Hein, on a quitté le giron de l'Église parce qu'on voulait justement affirmer notre autonomie. C'est pas pour retomber comme les communistes, enfin de la CGT, sous un autre giron qui serait là une autre Église, l'Église. Donc c'est un truc qui est quand même très très fort et très marquant. Et à FO, évidemment, le modèle, le rejet du modèle communiste va sans cesse servir à tous ceux qui veulent défendre l'autonomisation des FO dans un contexte où la SFIO n'est quand même pas la meilleure planche de salut pour Force Ouvrière. Il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire que si la SFIO avait, c'était électoralement mieux portée dans les années 50 avec davantage sans doute de présence en pouvoir, on ne peut pas savoir si cette relation, on pourrait dire, de progressive mise à distance de Force Ouvrière vis-à-vis de la SFIO serait la même. C'est-à-dire que dans ce contexte très particulier des années 50 où il y a la puissance communiste comme répulsif et en même temps un parti qui n'est pas en mesure de porter véritablement les revendications de FO, et ça va être encore, j'allais dire, pire dans les années 60 avec le gaullisme, où là FO réussit à occuper une position qui permet quand même d'accumuler du grain à moudre, comme disait Bergeron. Alors, on a effectivement, on pourrait dire, une mécanique d'indépendance qui s'affirme, mais qui n'était probablement pas inscrite d'emblée dans les gènes, comme on a voulu faire croire après en invoquant la charte d'Amiens. Bon, c'est très largement, on pourrait dire, une construction progressive. Et pour la CFDT, ce qui a été dit sur ce que j'ai rappelé là, sur ce grand souci quand même très fort dans la culture syndicale CFDT, qui se construit aussi à un moment où les socialistes sont faibles, d'incarner au fond une force politique et pas simplement une force syndicale, fait aussi que cette culture va être très rétive à toute idée d'inféodation au Parti Socialiste. Et l'épreuve du pouvoir va être, bon, le moment clé, c'est l'élection de 83, la Sécurité sociale, où la CFDT, qui a beaucoup soutenu le gouvernement, s'effondre. Et là, ils se disent, oh là, bon, il y avait déjà une amorce de resyndicalisation vraiment, ben alors là, les résultats sont comme un coup de choc, donc on est allé trop loin, et donc depuis ce temps-là, l'obsession de la CFDT, c'est effectivement de ne surtout pas apparaître, alors que le taux de vote pour le Parti Socialiste des adhérents de la CFDT, et le taux d'appartenance au Parti Socialiste des cadres à tous les niveaux de la CFDT, au moins jusqu'à il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, était considérable. Hein, et donc, on avait là, de fait, et puis évidemment, d'un point de vue programmatique, une très forte convergence. Hein, il suffit de regarder comment la CFDT s'est comportée au cours des 5 années du quinquennat Hollande pour se convaincre que là, on avait finalement une forte symbiose, mais une symbiose, on pourrait dire, d'autant plus forte, qu'il fallait rappeler justement que les deux entités étaient bien clairement distinctes, alors que les relations sont très fréquentes, très, 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 très familières, presque familiales d'ailleurs, entre beaucoup de membres de la CFDT. Alors moi, j'avais juste, je terminerai là-dessus, les choses me viennent comme ça. Moi, je trouve que sur cette question des relations entre la CGT et le PC, il y a des... c'est ce que disait Michel tout à l'heure en disant il faut peut-être inverser le regard, c'est-à-dire pas... je pense que c'est ça d'un point de vue peut-être d'innovation intellectuelle et puis du fait qu'on peut aujourd'hui se débarrasser. Bon, on n'est plus là à se battre pour essayer de montrer que la CGT elle est quand même un peu autonome par rapport au PC et que tout ça n'est quand même pas la même histoire. Bon, ok, très bien, il y a encore un enjeu, enfin, c'est quand même un jeu qui est largement refroidi. Peut-être que le temps est venu justement de regarder comment le PC a été syndicalisé, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de clivages internes au Parti communiste qu'on a pu interpréter comme clivages politiques, on va dire, hein, de ligne, etc., qui en fait recouvraient peut-être des clivages forts du point de vue des secteurs professionnels, d'appartenance des cadres ou des dirigeants, de préoccupations syndicales. Bon, ça a été évoqué tout à l'heure avec la question de la Fédération de l'énergie, mais au-delà de ça, comment ça se passait la coexistence entre les militants métallos et mineurs ou enseignants au sein du PC, au niveau national, le comité central, le bureau politique, mais aussi dans les fédérations, etc. Enfin, bon, voilà. Il y a des choses, il me semble, dans les travaux de Junior Michy assez intéressants là-dessus. Hein. On voit bien quand même que les cultures professionnelles, les intérêts professionnels, eh ben, ils se diffractent aussi dans les luttes politiques, au moment de constituer des programmes d'action municipale, au moment de se partager les postes parlementaires, au moment de prendre des décisions importantes. Donc je pense que là, il y a sans doute déjà des choses dans des travaux, mais il me semble qu'on gagnerait à prendre ce pli-là pour peut-être poser de nouvelles questions. Là, je pensais, toujours sur cette idée de prendre un petit peu quand même au sérieux l'autonomie syndicale et la particularité syndicale, et là aussi, en rebond avec ce qu'a dit Michel, moi, j'avais été quand même très intéressé, je ne sais pas si vous aviez lu le livre de François Piotet, là, sur la CGT, sur le modèle d'archipel organisationnel qu'elle dépeignait, c'est-à-dire, au fond, une image de la CGT comme beaucoup moins centralisée, évidemment, bon... C'est des choses... alors, elle le fait, évidemment, à partir d'un travail fait à la fin des années 90-2000, mais je pense que beaucoup des choses qu'elle dit datent pas, évidemment, de... Et du coup, c'est vrai que peut-être un des effets pervers de cette vision très centrale et centralisée, finalement, de féodation du parti... enfin, du syndicat par le parti, ou au parti, a oublié que... Précisément le caractère assez autonome de beaucoup de secteurs au sein de la CGT, le fait qu'il y avait des exigences de centralisation qui étaient peut-être qui concernaient les cadres, mais pas forcément la base, etc., peut du coup expliquer aussi la longévité de la domination communiste. C'est-à-dire qu'au fond, là où l'idée qu'il y aurait une inféodation terrible et une chape de plomb, on a plutôt... le fait que ce qui comptait finalement pour les responsables du parti, c'était de s'assurer la façade, mais qu'en pratique, on laissait quand même un très grand pragmatisme dans la manière de gérer les conflits du travail, les relations professionnelles, etc. Et que du coup, c'est ce qui peut paradoxalement expliquer que ça ait pu tenir aussi longtemps. Hein, ce qui amène aussi à se demander pourquoi ça ne tient plus. Hein, parce que, voilà, donc quelques réflexions en vrac. Excuse, je n'avais rien préparé, donc c'est improvisé.
Merci. Allez, qui veut intervenir ?